Vendredi 15 mai 1925. À notre arrivée, avant midi, le camp de base est presque désert. Le docteur Passang est encore là avec ses deux patients qui se reposent dans des tentes. Il a pratiqué les amputations hier, à leur retour du monastère. Les 10 orteils d'Angshiri, 4 orteils et 3 doigts de la main droite pour Lakpa Yishei. Dans des circonstances normales, nous explique le médecin, il aurait attendu plus longtemps avant d'opérer, mais la putréfaction commençait à gagner le pied entier d'Angshiri, et la gangrène menaçait aussi le pied et la main droite de Lakpa. Jean-Claude et moi allons voir les deux hommes. Angshiri est plus joyeux que jamais et impatient, nous dit-il, d'essayer les nouvelles formes en bois dans ses bottes pour voir s'il peut marcher sans orteils. Évidemment, pensons-nous, JC et moi, mais sans le dire, un Sherpa passe la plus grande partie de sa vie chez lui en sandales et pas avec des bottes de randonnée de fabrication anglaise. Mais Ang n'a pas l'air de s'en soucier. Lakpa, qui a perdu beaucoup moins qu'Ang, est pourtant plus morose. Les deux hommes ont les pieds bandés et leurs pansements sont tachés de teinture d'iode. Il tient sa main droite, à laquelle il ne reste plus que deux doigts, dans l'autre, et, pleurant presque, répète comme un mantra qu'il ne pourra plus jamais trouver de travail, d'après la traduction de Passang. Une fois ressortis de leur tente, JC et moi échangeons un commentaire sur la bonne humeur d'Angshiri quand Passang dit « Ne jamais négliger le pouvoir d'un peu d'opium post-chirurgical pour remonter le moral d'un patient. » Il ne reste que 5 autres Sherpas au camp de base. La veille, la plupart des hommes ont dû transporter des charges dans les camps en altitude, au camp 3, au pied de la dernière pente de glace et au camp 4 sur le col nord. Plus tôt dans la journée, un messager est venu prévenir Passang que les vents violents et la neige les empêchaient de monter au col, à l'exception du diacre, de Reggie et de deux tigres Sherpas, qui à l'heure qu'il est avaient sûrement dû redescendre se mettre à l'abri. Maintenant, au moins, les camps 2 et 3 sont équipés d'assez de tentes, de sacs de couchage et de nourriture pour tous ceux qui y passent. Passang nous confie qu'il a hâte de voir ses patients guéris pour pouvoir rejoindre les camps d'altitude. Une liberté dont il ne profitera évidemment que si aucun nouveau blessé ne doit être redescendu au camp de base pour recevoir des soins. À mon avis, le docteur Passang n'aime pas être séparé de sa patronne pendant de longues périodes. Bien qu'il soit déjà tard pour quitter le camp de base, Jean-Claude et moi décidons de faire un portage jusqu'au camp le plus haut que nous puissions atteindre aujourd'hui. Je crois que nous avons tous les deux besoin d'un peu d'escalade au grand air pour nous débarrasser du goût terrible de cette inhumation céleste. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. JC et moi vérifions le bon fonctionnement des deux appareils à oxygène. Beaucoup ont déjà été transportés plus haut par les Sherpas. Et une fois sûr qu'aucune des 6 bouteilles ne fuit, nous passons les harnais sur nos épaules. Comme nous n'avons pas l'intention de respirer de l'air anglais aujourd'hui, les masques et les valves sont accrochés au châssis de métal. Ainsi chargés, nous portons presque le poids de 11 kilos recommandé par le diacre, mais il faut aussi emporter quelques affaires personnelles au cas où nous devrions rester dans les camps en altitude, peut-être jusqu'au jour de l'assaut du sommet. Nous prenons donc 2 besaces, il s'agit en fait d'étuis de masques à gaz, sans les masques, de la Grande Guerre, que le diacre a acheté en grande quantité et pour pas cher. Elles sont parfaites pour y fourrer quelques vêtements de rechange, des accessoires de rasage, que je n'ai pas utilisé depuis une semaine vu que je déteste me raser à l'eau froide, un appareil photo, du papier toilette et tout le reste. Il y a probablement des sacs de couchage en surnombre là-haut, mais JC et moi ne voulons pas prendre de risques. Nous les enroulons très serrés, les rangeons dans leur housse imperméable et les accrochons aux barreaux métalliques du châssis des appareils à oxygène. Nous avons notre assortiment de piolets de différentes tailles, gardant seulement le long à la main, ainsi que 2 jumards, et nous avons chaussé nos crampons 12 pointes, bien que le trajet jusqu'au camp 2 se fasse essentiellement sur le sol caillouteux de la moraine. Vu le froid et la neige, nous avons revêtu nos ensembles en duvet d'oie sous la norac et le pantalon imperméable. Après avoir serré la main de Passang, nous nous mettons en route et remontons bientôt la vallée entre des parois de glace sale et quelques pinacles occasionnels. Le temps est pourri, on ne voit pas à plus de 4 mètres. Le vent est encore plus violent ici que dans la vallée du Rongbuk, Et alors que la neige ne semble pas s'accumuler, des grêlons nous piquent le visage comme des décharges de chevrotine. Reliés par 12 mètres de corde miracle et portant d'autres rouleaux sur nos épaules, Jean-Claude et moi entamons les 19 kilomètres qui nous séparent du col Nord. Nous n'échangeons que les quelques paroles nécessaires pendant la longue traversée de l'Auge puis du glacier au-dessus du camp 2. Nous sommes tous les deux perdus dans nos pensées. Je songe à la mort en montagne. Au-delà de ma culpabilité, après le décès inutile de Baburita, d'autres souvenirs me reviennent. Ce n'est pas la première fois que je suis le témoin d'accidents mortels. Quand je faisais mes études à Harvard, entre 1919 et 1923, nous étions quelques-uns à passer toutes nos vacances et nos moments de loisirs à grimper dans les Quincy Quarries voisines, au printemps et à l'automne, et dans les montagnes du New Hampshire l'hiver. Dans le milieu des ascensionnistes, on nous appelait les quatre de Harvard. Le professeur assistant Henry S. Hall, qui allait fonder le club d'alpinisme de Harvard en 1924, était notre chef officieux et c'est chez lui que notre petit groupe se retrouvait. Les deux autres membres en étaient Terry Carter, mon condisciple, et Ad Bates, d'un an notre cadet. Un grimpeur tout en genoux et en coude, à la technique peu orthodoxe mais d'une agilité étonnante. Le professeur Hall, avec ses amis alpinistes plus âgés et expérimentés, s'était spécialisé dans l'escalade des rocheuses canadiennes et pratiquait plus rarement en Alaska. Lors des vacances d'automne, pendant ma troisième année, nous étions partis tous les quatre au mont Temple en Alberta et nous escaladions l'arête Est, qui serait aujourd'hui classée 4,5,7, quand Ad avait glissé. La corde de 18 mètres qui le reliait à Terry et moi s'était rompue et il avait fait une chute mortelle. Nous n'étions pas en position d'assurage. La chute d'Ad avait été si soudaine et verticale que si la corde n'avait pas cassé, Terry et moi aurions sans doute dégringolé, nous aussi, de la face nord. Nous avions pleuré la mort d'Ad, bien sûr, comme seuls les jeunes peuvent pleurer la mort d'un camarade du même âge. J'avais essayé de parler à ses parents quand ils étaient venus à Harvard chercher ses affaires, mais je n'avais réussi qu'à sangloter. À la reprise des cours, j'avais commencé à sécher, restant dans ma chambre à broyer du noir. J'étais sûr d'en avoir terminé avec l'alpinisme. Le professeur Hall était alors venu me voir. Il m'avait dit que je devais choisir. Soit je retournais en cours, soit je quittais la fac. À l'heure actuelle, je ne faisais que gaspiller l'argent de mes parents. Pour ce qui était de l'alpinisme, il m'avait informé qu'il comptait emmener des étudiants grimper au mont Washington dès les premières neiges et que je devais décider tout de suite si je continuais, j'étais doué d'après lui, ou si j'arrêtais définitivement. « Mais la mort fait partie de ce sport », m'avait dit le professeur Hall. « C'est dur, c'est injuste, mais c'est comme ça. Quand un ami ou un camarade de cordée meurt, si vous voulez continuer à être un alpiniste, Jake, vous devez apprendre à dire « et merde » et passer à autre chose. » C'était la première fois que j'entendais un professeur utiliser ce mot et ça m'a frappé, tout comme la leçon qu'il me donnait. Au cours des dernières années, j'ai appris, du moins en partie, à dire « et merde » et à passer à autre chose. Pendant mes mois d'escalade dans les Alpes avec JC et le Diacre, nous avons participé à pas moins de 5 tentatives de sauvetage, dont 3 ont eu une issue tragique. Il est vrai que je ne connaissais aucun des alpinistes décédés, mais j'ai vu l'état d'un corps humain après un accident de montagne. Membres fracturés ou déboîtés, du sang partout, des crânes brisés, voire des têtes arrachées. La mort après une chute d'une grande hauteur n'est jamais belle à voir. Baburita n'avait pas subi ce sort-là. Il avait seulement suivi 2 imbéciles qui avaient descendu une pente en glissade comme ils auraient dévalé une piste de luge dans un parc municipal américain enneigé. Sauf qu'il n'y a pas de rochers cachés sous la neige sur les pistes de luge. « Et merde !» me suis-je entendu murmurer. « Passe à autre chose !» Le vent mugit entre les pinacles de glace de l'Auge et une fois sur le glacier, nous devons déterrer les cordes fixes entre les crevasses pour plus de sécurité, mais les drapeaux sur les baguettes de bambou nous indiquent le chemin. Nous arrivons au camp 3 avant que le jour commence à baisser. Reggie et le diacre n'y sont pas. Bien que deux grandes tentes Whymper aient été dressées, nous trouvons 8 Sherpas recroquevillés dans les 4 petites tentes Mead. Pemba nous explique d'un ton gémissant qu'ils sont tous mal en point. Ils souffrent de lassitude des montagnes, ainsi qu'on appelait le mal aigu des montagnes en 1925. Ceux qui ne sont pas enfoncés dans des sacs de couchage sont enveloppés dans plusieurs épaisseurs de couverture. Pemba nous apprend que Lady Memsahib et Deacon Sahib sont au camp 4 avec Teishbir Norgay et Tenzing Bhotia. Les vents sont terribles là-haut, nous dit-il. Jean-Claude et moi ressortons de la tente malodorante pour nous concerter. Il est tard et il fera nuit lorsque nous arriverons sur le col nord. Mais nous avons emporté nos lampes de mineur, j'ai une torche dans mon sac et nous nous sentons tous les deux d'attaque et impatients. La partie la plus pénible de l'ascension, curieusement, est la traversée du champ de neige jusqu'au pied de la pente, puis les 60 premiers mètres de montée jusqu'à la section plus abrupte où commencent les cordes fixes. Même si la neige et le jour déclinant cachent le rocher qui a tué Babou, je ne peux m'empêcher d'imaginer une couche de sang gelé sous la neige fraîche, comme de la confiture de fraises entre deux tranches de pain blanc. Lorsque nous atteignons la partie plus raide du trajet, nous devons utiliser nos piolets pour dégager la corde fixe. Puis nous fouillons dans nos sacs pour prendre nos lampes frontales et les jumards de Jean-Claude. Tandis qu'il vérifie que j'ai accroché correctement le jumard à la corde miracle, je lui demande « Vous avez vraiment inventé ce machin ?» Mon ami sourit. « Oui, mais en collaboration avec mon père. » Il aidait alors un jeune homme du nom d'Henri Breneau qui cherchait un mécanisme pour escalader des cordes dans des grottes. Comme l'appareil n'était destiné qu'à une seule personne, mon père n'a pas pensé à le breveter, pas plus d'ailleurs que Breneau, qu'il appelait un singe. Je l'ai modifié, créant un modèle plus petit et plus sûr, dans un métal à la fois plus léger et plus solide. J'ai ajouté la poignée incurvée avec son système de blocage pour pouvoir la saisir avec des moufles et dessiné une cam plus robuste pour appuyer sur la corde sans crainte de glisser ou de l'abîmer. Et voilà. Mais Jumard, c'était vraiment le nom de votre chien ? Jean-Claude se contente de sourire encore plus largement et commence l'ascension mécanique de la corde fixe. Il y a un an, Mallory, Irvine, Norton ou les autres auraient mis 4 ou 5 heures à gravir ce mur de glace jusqu'au col nord, surtout dans une tempête de neige semblable à celle que J.C. et moi venons de traverser. Mallory aurait passé beaucoup de temps plié en deux à s'épuiser à tailler laborieusement des marches dans la paroi glacée. À l'aide de nos nouveaux crampons 12 pointes et des jumards, J.C. et moi avons grimpé en moins de 45 minutes, avec une pause à mi-chemin pour manger une barre de chocolat. Nous avons utilisé nos longs piolets, mais seulement pour les planter dans la glace de la main gauche, afin d'avoir un meilleur équilibre ou pour retirer la neige recouvrant la corde fixe au-dessus de nous. La traversée du col nord, entre la corniche de glace et le camp 4, dans le coin nord-ouest sous les hauts séracs, aurait dû être inquiétante dans une telle tempête. Mais le diacre et les autres ont planté de solides baguettes de bambou surmontées de drapeaux rouges, de sorte que malgré le vent et le manque de visibilité, il est aussi facile de passer entre les crevasses que de marcher sur une route de 3 mètres de large bien balisée. Le camp 4 se compose à présent d'une tente Whymper de taille moyenne, de la GTR, la grande tente de Reggie, et de 2 petites tentes Mead dans lesquelles le diacre a prévu d'entreposer des charges destinées au camp supérieur. Quand une partie de ce matériel sera montée au camp 5 et 6, les tentes Mead et la tente Whymper serviront à abriter les Sherpas pendant leurs allers et retours dans la chaîne théorique d'approvisionnement. Le diacre et Teishbir Norgay lèvent des yeux surpris quand nous passons la porte de la tente Whymper et secouons la neige de nos vêtements dans le petit vestibule avant de les rejoindre. J'imagine qu'on doit offrir un drôle de spectacle avec nos capuches en duvet doigt remonté, nos casques d'aviateur en cuir, nos cagoules qui nous cachent tout le visage, les lampes frontales encore allumées, nos lunettes couvertes de givre et les épaules pleines de neige de nos anoraks Shackleton. Les deux hommes ne s'attendaient manifestement pas à avoir de la compagnie. Ils sont penchés sur un réchaud Una à faire bouillir quelque chose dans une grande casserole, à la température ridiculement basse nécessaire à l'ébullition à 7200 mètres. L'eau bout à 76 degrés Celsius à cette altitude et à 100 degrés Celsius au niveau de la mer. Dès qu'ils entrent en contact avec l'air froid, nos liquides bouillis à 76 degrés Celsius refroidissent à la température du corps. Lorsque nous nous découvrons le visage, le diacre dit « Juste à l'heure pour le dîner, messieurs. Ragoût de bœuf. Et nous en avons préparé des quantités. JC et moi mourons de faim. » La nausée qui nous avait saisis tous deux après l'inhumation céleste est passée pendant nos longues heures de marche et d'escalade. Je m'attendais à un reproche du diacre après la mort de Baburita, mais il ne vient pas. Aucune question sarcastique non plus, pour savoir si nous avions apprécié l'inhumation céleste ou avons passé un moment édifiant avec les briseurs de mort. Je sais que le diacre a déjà assisté à de tels rituels, mais il n'y fait aucune allusion, ironique ou pas. Je suppose qu'il compatit après les horreurs que nous avons vues. De plus, je sais qu'il appréciait beaucoup notre Sherpa. Quel est le programme d'escalade, Richard ? Demande Jean-Claude une fois que nous avons fini le ragoût et les biscuits réchauffés et que nous sirotons notre café tiède. Demain matin, sauf si le temps se dégrade encore, nous tenterons l'arête nord pour aller au camp 5, répond-il. J'ai pu y monter 2 tentes mid il y a quelques jours. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elles n'ont pas été soufflées par le vent ou balayées jusqu'en bas du glacier par une avalanche. Il montre les appareils à oxygène que nous avons posés dans un coin de la tente. Vous les avez utilisés pendant l'ascension ? Nous secouons la tête. Bien, dit le diacre. Nous en avons d'autres ici au camp 4, et je vous conseille de prendre une bouteille pour vous deux pendant la nuit. Si vous avez froid ou si vous commencez vraiment à vous sentir mal, un petit peu d'oxygène au débit minimum vous fera du bien. Nous avons tous besoin de dormir si nous voulons grimper demain matin. À ce propos, avez-vous apporté des batteries supplémentaires pour ces lampes de mineur ? Je hoche la tête. Bien. Quand je dis demain matin, je pense à 3h30 ou 4h. Je suis tenté de commenter... Vous suivez donc finalement le conseil de Reggie, mais préfère m'abstenir et demande plutôt « Où sont Reggie et Tenzing Botia ?»« Dans la GTR, » répond le diacre. Puis il sourit soudain. Lady Bromley-Montfort m'a interrogé ce matin au camp 3 quand elle m'a surpris en train d'en parler avec deux Sherpas. Elle a exigé de savoir ce que signifiait ce GTR dont elle avait entendu plusieurs hommes parler. Quand je lui ai dit qu'il s'agissait de la grande tante de Reggie, en m'excusant pour cette familiarité, elle a juste dit « Oh !» et piqué un phare. Je me demande ce qu'elle était allée s'imaginer. Alors que j'y réfléchis, plusieurs possibilités me viennent à l'esprit, et c'est à mon tour de rougir violemment. Je me resserre du café pour cacher mon embarras. Le vent gratte les parois de la tente, mais contrairement à la semaine dernière, on n'a pas l'impression qu'elle va s'effondrer d'une seconde à l'autre. Et même si elle se déchirait, il nous resterait 2 tentes mid inutilisées et la GTR comme canot de sauvetage dans la tempête. Sauf bien sûr si nous n'avons pas le temps de sortir de la tente avant que ses attaches et piquets ne soient arrachés par les bourrasques. Dans ce cas... Il ne nous restera qu'à essayer d'agripper le sol à travers la toile pendant que la Whimper glissera avant de disparaître dans une crevasse ou de tomber d'un à-pic de plusieurs centaines de mètres jusqu'au glacier. Nous nous installons dans nos sacs de couchage en sirotant nos dernières gouttes de café quand je sors le livre que j'ai emporté avec moi. C'est la célèbre anthologie de poésie anglaise et française parue pendant la guerre et intitulée « The Spirit of Man ». Je commence à lire à voix haute un poème de Tennyson quand le diacre m'interrompt soudain. « Excusez-moi, Jake, puis-je voir ce livre ?»« Bien sûr, je lui tends le volume. » Il se lève, enfile sa parka de duvet, roule son sac de couchage, attrape son sac à dos et quitte la tente pour sortir dans la tempête. Troublé, souriant en pensant qu'il s'agit d'une quelconque plaisanterie, peut-être une histoire de papier toilette, bien que nous en ayons tous apporté. Je passe la tête et les épaules à l'extérieur de la tente, le temps de voir le diacre lancer mon livre dans l'une des plus profondes crevasses. Puis il disparaît dans des tourbillons de neige en direction des tentes mid remplies de matériel. Je referme le rabat de la tente et me tourne vers JC et Tejbir. Tous deux ont l'air aussi surpris et troublés que je le suis. Je secoue la tête, cherchant quoi dire et me demandant si le diacre n'est pas victime d'un coup de folie passager dû à l'altitude, quand les rabats s'ouvrent pour laisser entrer Reggie. Elle n'est pas vêtue de sa tenue de duvet d'oie, mais la porte à la main, de même que son sac de couchage et un coussin gonflable. « Puis-je entrer ?» demande-t-elle alors qu'elle est déjà à l'intérieur en train de renouer les liens des rabats de la tente. « Faites donc. Oui, je vous en prie, bien sûr. » balbutions-nous, JC et moi. Tejbir la regarde de ses yeux écarquillés, et je me souviens qu'il a tendance à perdre sa maîtrise de l'anglais quand il est inquiet ou troublé. Nous faisons de la place pendant que Reggie dispose son matelas de sol et son sac de couchage, retire ses bottes délacées et s'assoit. Elle s'adresse à Tejbir en népalais, puis le Sherpa hoche la tête, enfile ses bottes, plie son sac de couchage, attrape son sac à dos et sort dans la tempête.
Je viens de suggérer à Tejbir que, puisque je dormirai ici ce soir, si vous êtes d'accord, messieurs, Tenzing Bhotia se sentirait peut-être seul dans ma tente en dôme. Tejbir a compris le message. Nous aurons ainsi plus de place pour nous étendre.
Puisque je dormirai ici ce soir. La phrase me donne le tournis. Puis, je mesure l'absurdité de ma réaction pudibonde. En plus des sacs de couchage qui nous enveloppent comme des momies, nous sommes tous les trois encore vêtus de multiples couches de coton, de laine et de duvet d'oie. Je me souviens d'une anecdote que j'ai entendue en Angleterre à propos de Sir Robert Falcon au pôle Sud. Apparemment, Scott était très à cheval sur la hiérarchie sociale. On dit qu'il avait accroché une couverture pour séparer le coin des simples recrues de celui des officiers dans le grand abri qu'ils avaient bâti près de la côte. Mais au début de son expédition vers le pôle, alors que certains allaient retourner à l'abri et survivre à l'expérience, quelqu'un avait respectueusement demandé à Scott pourquoi il mettait plus de temps que les autres quand il sortait dans le froid glacial de la nuit pour faire ses besoins naturels. « Le problème, aurait répondu Scott, c'est d'extraire un machin de 5 cm de 18 cm de vêtements. En d'autres termes, Lady Bromley-Montfort ne risquait rien avec nous ce soir. Il va sans dire qu'elle aurait été parfaitement en sécurité, même si nous avions tous été nus.
J'étais dehors pour aller aux toilettes quand j'ai vu M. Deacon lancer un livre par la falaise, puis aller se réfugier dans la tente mid que nous avons à moitié remplie de provisions à destination des camps supérieurs, dit-elle.
Ce qui me donne matière à réfléchir. Aller aux toilettes. Lorsque nous devons uriner dans ce genre de tempête, nous, les hommes, ne sortons pas de la tente. Nous ne sommes pas vieux jeux comme l'était Scott et utilisons ce que l'on appelle poliment une bouteille à pisse qu'on va ensuite jeter discrètement, ou non, à l'extérieur quand le temps s'améliore. Je n'ai jamais pensé au problème que peut poser à une alpiniste le simple fait d'aller aux toilettes. Et voilà que je me demande si elle doit s'accroupir au bord d'une crevasse et que je m'inquiète de possibles gelures. Je ne sais pas si je rougis une fois encore, mais j'avoue que je me détourne le temps de reprendre contenance.
Quel était ce livre ? Demande Reggie.
Je me rends compte que J.C. attend que je réponde.
Oh, l'anthologie de poésie anglaise de Robert Bridges intitulée The Spirit of Man. J'avais entendu dire que George Leith Mallory en avait lu des passages à voix haute à ses camarades ici au camp 4, et je pensais que ce serait peut-être bienvenu si...
Je ne termine pas ma phrase. Reggie hoche la tête.
Je comprends pourquoi M. Deacon a balancé le livre du haut du col.
Je jette un coup d'œil à J.C., mais il paraît aussi désemparé que moi. Le diacre a-t-il un peu perdu la tête à cause de l'altitude? Est-il encore en colère contre Mallory ou jaloux de lui? Ça n'a pas de sens. Puis Reggie me pose une question qui me fait passer du domaine du bizarre à celui de l'impossible.
L'un de vous a-t-il déjà vu votre ami Richard Davis Deacon nu ?
Demande-t-elle d'une voix neutre. Jean-Claude et moi nous regardons de nouveau, mais ne réussissons qu'à secouer la tête en guise de réponse.
C'est bien ce que je pensais,
dit-elle.
Moi, je l'ai vu.
Mon Dieu,
Le diacre et elle sont amants depuis que nous l'avons rencontré à Darjeeling, me dis-je. Leur bisbille affichée n'était qu'un écran de fumée. J.C. réussit à poser la question importante, c'est peut-être plus facile pour un Français.
Puis-je vous demander quand vous l'avez vue nue, madame ?
Reggie sourit.
La première nuit que vous avez tous passé à ma plantation de Darjeeling. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai demandé à Passang d'ajouter une goutte de morphine dans le cognac de Monsieur Deacon pour qu'il dorme profondément. Passang et moi avons ainsi pu examiner son corps à la lueur des bougies. Par chance, sous des climats plus chauds, votre ami dort dans le plus simple appareil. Il n'y avait là rien de personnel, vous le comprenez. Une obligation purement médicale.
Je suis trop estomaqué pour parler. Ce n'est pas seulement fou, c'est scandaleux. Rien de personnel. Que peut-il y avoir de plus personnel que d'être drogué puis examiné de la sorte? Je ne peux m'empêcher de me demander si Passang et elle nous ont fait subir à tous le même traitement. Je me souviens d'avoir dormi comme une masse. Mais pourquoi aurait-elle fait une chose pareille? Reggie va répondre à la question que ni J.C. ni moi n'avons formulée.
Connaissiez-vous Monsieur Deacon avant la guerre?
Nous secouons la tête.
Le connaissiez-vous pendant l'immédiat après-guerre?
Une fois encore, nous faisons signe que non. Parfois, j'oublie que Jean-Claude a rencontré le diacre et commencé à grimper avec lui seulement 2 mois avant moi. Reggie soupire.
Le capitaine Hardy Deacon a été cité à l'ordre du jour au moins 14 fois pendant la guerre,
dit-elle d'une voix douce.
Mesurez-vous la véritable signification de cette information?
Que Richard est très courageux,
dit J.C. avec impatience. Reggie sourit.
Au milieu d'un carnage aussi monstrueux, il est extraordinaire d'obtenir 4 ou 5 citations. Ceux qui ont été cités 7 ou 8 fois ont fait preuve d'une bravoure telle qu'ils ont invariablement fini par mourir au combat. Le capitaine Deacon, il a refusé plusieurs promotions au grade de major ou de colonel, vous savez, a participé à la bataille de Mons, à la première bataille de la Marne, quand les forces expéditionnaires britanniques se sont engouffrées dans une brèche dans le front. Il était à Ypres, à Loos, pendant la bataille de l'Artois en 1915, sur la Somme en février 1916, là où les Britanniques ont perdu 58 000 hommes avant le petit déjeuner le premier jour. Il était dans le cratère à la bataille de Messines et a participé à des combats parmi les plus terribles à Passchandaele en 1917 et à la deuxième bataille de la Marne en 1918.
Comment savez-vous tout cela, dis-je?
Par mon cousin Charles notamment. Mon cousin Percival était encore une meilleure source. Je croyais que Percival, le jeune Bromley, n'avait pas combattu pendant la guerre,
dit Jean-Claude.
Il n'a pas combattu, dit Reggie. Du moins, pas en tant que soldat en uniforme, comme l'ont fait le capitaine Deacon et mon cousin Charles. Mais Percival avait des contacts, disons, nombreux, au gouvernement et au ministère de la guerre. Mais votre cousin Percy était mort quand vous avez appris que Richard venait pour cette mission,
insiste J.C.
Oui, dit Reggie. Mais mentionner le nom de Percival m'a permis d'ouvrir certaines portes, ou certains dossiers, devrais-je dire, au cours des derniers mois.
Je ne comprends pas. La réprobation est très audible dans mon ton. En quoi les admirables états de service du diacre justifient-ils que Passang et vous l'ayez drogué pour l'examiner pendant son sommeil?
J'avais déjà commencé à organiser cette expédition pour retrouver la dépouille de Percival, dit-elle. J'avais choisi 3 guides alpins, des Suisses, qui devaient m'accompagner dans la montagne. Quand j'ai appris que Jean-Claude et vous veniez avec Monsieur Deacon, qui a su profiter de la fortune de ma tante Elisabeth pour vous financer tous les trois, je devais m'assurer qu'il était physiquement apte.
Bien sûr qu'il l'est, dis-je, sans plus chercher à cacher mon indignation. Vous l'avez vu marcher et grimper? C'est certainement le plus fort de nous trois. Reggie hausse légèrement les épaules, mais pas assez pour que ça ressemble à des excuses ou des regrets.
Je savais par mon cousin Charles, et par les dossiers secrets du ministère de la guerre, que le capitaine Deacon avait été blessé pas moins de 12 fois. À aucun moment il n'a accepté d'être évacué et renvoyé en Angleterre, comme George Mallory, par exemple. Mallory était lieutenant en second dans la 40th Siege Battery dans la Somme. Il a passé tout son temps de service dans une unité d'artillerie derrière la ligne de front. Et s'il a vu des hommes mourir à côté de lui, il n'a jamais combattu longtemps en première ligne, comme Richard Deacon. Mallory a été rapatrié en Angleterre pour subir une opération. Une vieille blessure à la cheville qu'il s'était faite avant la guerre, conséquence d'une chute, je crois, alors qu'il escaladait dans une carrière. Il a quitté la France le 8 avril 1917, la veille de la bataille d'Arras, durant laquelle 40 000 soldats britanniques sont morts, et où le capitaine Deacon a été blessé pour la cinquième fois. George Mallory, qui avait des amis haut placés, sans mauvais jeu de mots, a passé presque toute la fin de la guerre en Angleterre en convalescence, puis dans des unités d'entraînement. Il était toujours en congé de convalescence quand il est allé escalader à Penny Pass avec ses amis, à croire qu'il se sentait suffisamment bien. Rappelé dans son bataillon d'artillerie, il a échappé de peu à la terrible bataille de Passchendaele, à cause d'une nouvelle blessure au pied et au pouce qu'il s'est faite en Angleterre dans un accident de motocyclette à Winchester. On pourrait presque dire, si on l'osait, que George Mallory a eu une guerre facile. Le capitaine Deacon, quant à lui, n'a cessé de retourner au front malgré ses blessures. Il n'a jamais accepté d'être rapatrié. Et d'après ce que je sais, il n'est jamais retourné en Angleterre de toute la guerre. Très, très inhabituel pour un officier. Il n'y avait qu'une journée de voyage entre le front et Londres, et les gradés profitaient de presque chaque permission pour faire le trajet. Quant aux blessures, j'étais également consciente que le capitaine Deacon avait été exposé directement au moins deux fois au gaz moutarde.
« Ses poumons vont bien, ai-je dit. Ses yeux aussi. »
« Ah !»
a lâché J.C. comme s'il venait enfin de saisir quelque chose. Reggie secoue la tête.
« Vous ne comprenez pas, Jake. Le gaz moutarde n'attaque pas seulement les yeux, les poumons et les muqueuses. Quand la poudre jaune éclabousse le corps, elle ronge la chair et le muscle et creuse des plaies qui ne se referment jamais. Ces blessures, qui saignent et suppurent, doivent être nettoyées tous les jours pendant la vie entière. C'était précisément ce dont souffrait mon pauvre cousin Charles. Vous souvenez-vous, l'un et l'autre, de John de Vere Hazard?
Hazard a participé à l'expédition de l'année dernière, dit Jean-Claude.
C'est le type qui a abandonné quatre Sherpas dans la tempête, ici au col Nord. Une tempête semblable à celle d'aujourd'hui. Et obliger Mallory, Somerval et les autres à risquer leur vie pour remonter du camp 3 afin d'aller les chercher.
Reggie confirme d'un hochement de tête.
Monsieur Hazard a reçu la croix militaire pendant la guerre, une haute décoration décernée pour service exemplaire au combat. Monsieur Deacon l'a reçu quatre fois. L'année dernière, Monsieur Hazard est venu en expédition dans l'Everest alors qu'il souffrait encore de ses blessures. Celles causées par le gaz moutarde étaient les plus graves. Mais il avait aussi des éclats d'obus dans le dos et des douleurs dans les hanches et la cuisse à cause de tirs de mitrailleuse. Les plaies de Hazard se sont rouvertes ici. Sous ses vêtements de laine et de coton, le pauvre homme saignait en permanence. Et il s'est retrouvé dans l'incapacité d'agir quand on a eu le plus besoin de lui.
Comment savez-vous tout cela?
Mes cousins Charles et Percy avaient de nombreux contacts. J'ai aussi poursuivi une longue correspondance avec le colonel Teddy Norton, que vous avez rencontré l'automne dernier à la Royal Geographical Society.
Donc, dit J.C.,
vous avez cru devoir prendre des précautions en demandant au docteur Passang d'examiner les blessures de Richard Deacon alors qu'il était sous l'influence de la morphine à votre plantation?
« Oui, » répond Reggie. Il n'y a aucune trace de défi dans sa voix, mais toujours pas de honte non plus.
« Qu'avez-vous trouvé ?» demande J.C.
Je lui jette un coup d'œil outré.
Du tissu cicatriciel en au moins 12 endroits, comme vous pouvez l'imaginer. Des muscles un peu atrophiés au mollet gauche à cause d'une blessure de mitrailleuse. Au moins 3 séries de cicatrices sur le torse, là où des balles ou des éclats d'obus ont traversé le capitaine Deacon de part en part, sans toucher d'organes ou de vaisseaux sanguins vitaux. Lorsqu'on regarde les cicatrices sur le corps nu de votre ami le capitaine Deacon, on a l'impression qu'une araignée a tissé des toiles blanches dans sa chair.
Il faut un sacré culot pour l'espionner de cette façon, fulminai-je de la voix la plus dure que je m'autorise avec une dame.
C'est vrai, admet Reggie. C'était une violation presque impardonnable de l'intimité de Monsieur Deacon. Mais je devais savoir. Les trois guides suisses que j'avais contactés pour m'aider à chercher le corps de Percival avaient déjà quitté l'Europe, et je devais leur envoyer un télégramme à Colombo si je décidais d'annuler leur participation pour m'engager avec vous à la place. Richard a donc réussi l'examen de passage?
J.C. ne semble pas en colère, seulement un peu déconcerté. Je doute qu'il ait utilisé le même ton si Reggie l'avait examiné, lui. Mais à la réflexion, peut-être que si.
Effectivement, dit Reggie. Mais d'après Passang, vu la gravité et l'emplacement de certaines vieilles blessures, votre monsieur Deacon doit ressentir des douleurs constantes. Et alors, dis-je, beaucoup d'excellents alpinistes souffrent durant l'exercice. Sûrement pas autant, réplique Reggie. Et je regrette de vous avoir menti à tous les trois en vous disant que mon cousin Charles avait succombé à ses blessures durant votre traversée pour venir jusqu'ici. En réalité, il s'est suicidé. D'après ma tante Elisabeth, Lady Bromley, après avoir courageusement enduré ses souffrances pendant 7 ans, il n'a tout simplement plus pu les supporter. Il a utilisé son revolver de service.
Cette révélation nous impose le silence pendant plusieurs longues minutes.
Juste par curiosité, demande enfin J.C. Qui étaient les guides suisses que vous aviez embauchés?
Reggie les nomme, et Jean-Claude émet un sifflement d'admiration et de respect.
Je suis surpris que vous les ayez renvoyés pour nous choisir à la place.
Reggie sourit.
J'ai dédommagé les Suisses pour leur temps, et je leur ai envoyé un gros chèque quand ils ont fait demi-tour à Colombo. Mais vous trois étiez déjà payés par ma tante. Et ces revenus proviennent de la plantation de Darjeeling que je dirige depuis l'âge de 14 ans. Partir avec vous trois, et Passang et les tigres Sherpa, paraissait la solution la plus économique. Mais je devais vérifier les blessures de Monsieur Deacon et m'assurer que son corps était apte à entreprendre cette ascension. Il a 37 ans, vous savez.
George Mallory avait le même âge quand il a disparu l'année dernière, dis-je bêtement. Personne ne répond. Jean-Claude sort les épaules du cocon de son sac de couchage. Il doit libérer ses mains. Il ne peut pas parler sérieusement sans l'aide de ses mains.
Mais madame, vous nous avez demandé si nous connaissions Richard durant les années d'après-guerre? Y a-t-il un lien entre cette période et vos inquiétudes concernant notre ami? Avez-vous la moindre idée de ce qu'a fait Monsieur Deacon juste après la guerre?
Demande Reggie.
Je sais seulement qu'il est allé dans les Alpes suisses et françaises et qu'il a passé le plus clair de son temps à faire de l'alpinisme,
répond J.C. Reggie hoche la tête.
La mère de Monsieur Deacon est morte quelques années avant la guerre. Son père a succombé à une crise cardiaque en 1917. Monsieur Deacon avait un frère aîné, Gérald, pilote dans la RAF, qui a été tué en 1918. De sorte que Richard Davis Deacon s'est retrouvé seul héritier de 2 immenses domaines. À côté de Brambles, notre résidence familiale, Bromley House, ressemble à une bicoque, mais aussi du titre de comte. Il est devenu pair du royaume et membre de la Chambre des Lords.
Le comte Deacon, dis-je. Reggie éclate de rire.
J'adore les Américains. Non. Monsieur Deacon, qu'il le veuille ou non, est le 9e comte de Watsbury.
Elle le prononce avec cet accent anglais qui lui fait manger la moitié des lettres. Watsbury.
Qu'il le veuille ou non,
s'étonne Jean-Claude, les paumes ouvertes.
Monsieur Deacon n'a légalement pas le droit de renoncer à son titre héréditaire. Mais il refuse d'y répondre, s'est séparé de la plupart de ses domaines et ne veut pas siéger à la Chambre des Lords.
J'ignorais qu'on puisse ne pas vouloir être comte, avouai-je, ou qu'on soit obligé de l'être même si on ne veut pas.
Comme la plupart des gens au Royaume-Uni,
dit Reggie.
Quoi qu'il en soit, en 1918, depuis la France, je crois, Monsieur Deacon a fait don à la couronne de ses 2 domaines, de 12 000 hectares de terre et des revenus de ses propriétés. Il a suggéré que Brambles, le château familial vieux de 900 ans, soit converti en centre de convalescence. Il n'y est jamais retourné après la guerre.
Il dispose d'un petit revenu, quelques droits d'auteur, me semble-t-il, que lui rapportent des romans et de la poésie qu'il a publiés sous différents noms de plumes avant-guerre. Et il a passé le plus clair de son temps dans les Alpes depuis 1918.
Vous êtes en train de nous dire que Richard Davis Deacon est un fou ?
Reggie braque sur moi son regard outre-mer.
Absolument pas, réplique-t-elle durement. J'essaie de vous expliquer pourquoi votre ami vous a pris votre recueil de poésie et l'a jeté par la falaise.
Je ne comprends toujours pas.
Monsieur Deacon sait qu'en septembre 1914, au tout début du conflit avec l'Allemagne, le bureau de la propagande de guerre nouvellement créé, et top secret, a organisé une réunion avec certains des écrivains et poètes anglais de premier plan à Wellington House, Buckingham Gate. Thomas Hardy y était, ainsi que H.G. Wells.
L'auteur de La guerre des mondes, m'exclamai-je.
Reggie hoche la tête et poursuit. Et aussi Rudyard Kipling, John Masefield, l'écrivain catholique, G.K. Chesterton, Arthur Conan Doyle, J.M. Trevelyan, J.M. Barrie,
Peter Pan, s'écrie J.C.
Apparemment, M. Deacon était un poète suffisamment respecté pour y être convié. Avec son ami poète Robert Bridges. Tout ce qu'on leur demandait, même aux hommes assez jeunes pour être mobilisés, comme M. Deacon, c'était de mettre leur talent littéraire au service de l'effort de guerre. En œuvrant principalement à soutenir le moral du public qui jamais, jamais ne devait savoir à quel point les combats risquaient d'être épouvantables.
Mais le diacre s'est enrôlé,
dit J.C., les doigts à présent croisés comme en prière.
Oui,
dit Reggie. Robert Bridges, lui, n'a plus écrit un vers de poésie durant toute la guerre. Mais il a édité une anthologie de poésie anglaise. Le recueil intitulé « The Spirit of Man », dont George Mallory a lu par deux fois des extraits ici au camp 4, et que vous avez voulu lire ce soir, Jake.
« Mais ce sont de beaux vers, dis-je, des classiques.
Il y a même un poème de jeunesse du diacre dedans. »
« Et absolument aucune référence à la guerre, » dit Reggie.
« C'est exact. Beaucoup de thèmes, mais pas de vers à propos de la guerre. » Et
je m'interromps soudain. Je crois que je commence à comprendre.
Les journaux aussi contribuaient à l'effort de propagande, continue Reggie.
Forcément, n'est-ce pas?
Ils devaient publier la liste des victimes, mais jamais ils n'ont décrit l'atroce réalité des combats.
Pas une fois.
Tous les journaux se soumettaient volontairement au bureau de la propagande. Dans une lettre qu'il m'a envoyée en 1917, mon cousin Charles m'a rapporté des propos de Lloyd George à C.P. Scott, le rédacteur en chef du Manchester Guardian.
« Si les gens savaient, aurait-il dit,
il parlait de la vraie boucherie qui avait lieu en France et en Belgique,
si les gens savaient, la guerre s'arrêterait demain. »
Quand je reprends la parole, c'est d'une voix lente et prudente, comme si mes mots se frayaient un chemin dans un champ de crevasses.
Donc, ce recueil. The Spirit of Man
faisait partie du travail de ce bureau de la propagande pour poursuivre la guerre, quelles que soient les pertes humaines.
Reggie ne dit rien et ne fait pas un mouvement, mais je vois qu'elle est fière de moi.
Je n'ai pas l'habitude d'être le cancre de la classe, mais je m'enorgueillis d'être suffisamment malin pour le savoir quand c'est le cas.
J'y sais paraît troublé. Reggie, Lady Bromley-Montfort,
dit-il, juste assez fort pour être entendu par-dessus le vent qui fouette les parois de la tente.
Vous devez avoir une autre raison de partager avec nous ces informations très personnelles à propos de Richard.
C'est vrai,
dit Reggie. Je sais à quel point vous êtes tous les trois désireux d'utiliser l'argent de ma tante pour tenter de gravir l'Everest. Mais voyez-vous, je ne suis pas complètement convaincu que le cher Richard Davis Deacon veuille revenir de la montagne.